Un temps chahuté et pluvieux la nuit dernière. De forts cumuls de précipitations ont été relevés, notamment à Canala et sur le sud de la côte ouest. Le temps devrait s'améliorer, mais la vigilance reste de rigueur sur les routes. L'approche du recensement, il débute mardi prochain. 800 agents recenseurs seront déployés sur le terrain jusqu'au 22 mai. Une filière pour la scorie, elle peut être utilisée dans la fabrication du sland, un matériau de construction qui vient d'être inscrit au référentiel de construction de la Nouvelle-Calédonie. En métropole, Emmanuel Macron persiste et signe dans sa volonté de reconnaître un État palestinien en juin. Face aux nombreuses réactions, le chef de l'État a précisé ses intentions. François Bayrou réunit la nuit prochaine une conférence sur les finances publiques. Les oppositions menacent d'avoir recours à une motion de censure. Et puis du football dans la page sport. Le PSG tentera demain de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions face à Aston Villa. Les Parisiens avaient remporté le match aller 3 buts à 1. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui sera suivi par le magazine Citoyen. Bonjour Nicolas Legrand.
Bonjour Jean-François.
Nous parlerons dans ce magazine cette semaine du fonctionnement et aussi, pourquoi pas, des difficultés des CFA.
Oui, puisqu'après les émeutes, les centres de formation des apprentis ont dû se réorganiser pour accueillir les alternants. Comment fonctionnent-ils aujourd'hui et quels sont leurs défis? Ce sera le thème du magazine Citoyen ce midi. Juste après votre journal, Jean-François, nous en parlerons avec Charles Roger, le directeur général de la CCI, également avec le responsable des écoles de la Chambre de commerce et d'industrie, David Leclerc, de la présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat Elisabeth Rivière et de Laurent Chouilly qui est directeur du centre de formation des apprentis de la CMA.
Une météo très perturbée la nuit dernière et la sécurité civile lance un appel à la vigilance après les fortes pluies et inondations de ce matin. Ces dernières 24 heures, les services de Météo France ont relevé 301 mm de pluie à Canala, 196 à Nassira, 169 à Boulou-Paris ou encore 102 mm à Marais. La majeure partie ouest-sud-ouest du territoire a été submergée par les eaux, notamment à La Foix où un homme ayant été porté disparu avant d'être retrouvé sain et sauf dans son champ. De nombreuses routes étaient impraticables, dont l'entrée sud de la Foix au niveau de la passerelle Marguerite, c'est toujours le cas, l'intersection entre Thiau et Boulou-Paris, Bouraquet ou encore le village de Canala. Un appel à la vigilance a donc été émis par la sécurité civile et relayé par les pompiers. Brice Régent est le directeur du SIVM Sud.
L'ensemble des cours d'eau s'est chargé durant la nuit. On a eu plusieurs inondations, notamment la Waya qui est sortie de son lit, ce qui est un phénomène quand même assez peu courant. La Foix, bien sûr, plusieurs voies secondaires sur les zones de Bouraquet, Ouaméni, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'appeler les gens à la vigilance. C'est une période où les enfants aiment être près des cours d'eau, c'est les vacances, on a beaucoup de passages. La météo annonce une montée en puissance du phénomène sur les heures qui viennent. Ça peut être assez trompeur puisque effectivement le ciel se dégage, mais on appelle réellement, dans l'intérêt aussi évidemment des populations, mais des secours qui s'exposent au risque, à être particulièrement vigilants et à limiter au maximum les déplacements durant cette période de montée des eaux.
Des inondations qui ont aussi des conséquences sur les transports en commun. Les lignes de bus rail qui doivent passer par Boulou-Paris et La Foix sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Les rotations reprendront dès lors que les routes seront de nouveau praticables. Toutes les communes au sud d'une ligne Canala-Bouraille restent en vigilance jaune forte pluie. Le temps devrait toutefois s'améliorer dans la journée. Le recensement de la population débute dans une semaine maintenant. Mardi prochain, 800 agents recenseurs seront déployés sur tout le territoire pour recenser l'ensemble de la population, Nicolas Legrand.
Oui, une opération obligatoire. Tous les 5 ans, tout le monde doit se faire recenser. C'est une compétence de l'État qui a donc monté un partenariat entre l'INSEE et l'ISEE pour mettre en place ce recensement qui permet de collecter des informations statistiques sur la population. Des éléments très importants, d'ailleurs, nous a dit le chef de mission Jean-Philippe Groutier de l'INSEE.
L'objectif de ce recensement, il est double. Un, c'est de définir ce qu'on appelle les populations de référence, combien d'habitants dans chaque commune, dans chaque province, sur l'ensemble du territoire. Il y a des centaines de textes dans le Code des communes qui font référence à la population. Et le deuxième objectif, c'est d'avoir une description socio-économique de la population. Quelle pyramide des âges, aussi des conditions de logement, quel niveau de formation des personnes, etc., pour éclairer le débat public et aussi le débat privé. Des entreprises qui veulent faire une étude de marché, elles ont besoin de connaître la population et ses caractéristiques.
La Nouvelle-Calédonie a ainsi été divisée en plus de 2500 secteurs qui sont ensuite attribués à des agents recenseurs qui ont été embauchés et formés spécialement pour l'occasion. Vous devrez donc répondre à 2 questionnaires, ce qui prendra jusqu'à 30 minutes pour un foyer de 4 personnes environ. On retrouve Jean-Philippe Groutier.
On a 800 agents recenseurs sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie qui vont passer dans chaque foyer. Ils seront équipés de 3 signes distinctifs, une carte officielle d'agent recenseur, une chasuble orange siglée recensement et une mallette bleue siglée recensement. et ils passeront partout. L'agent censeur passe plusieurs fois. On lui demande d'être pugnace, de passer 3 fois, 4 fois, 5 fois, à des heures différentes. Il peut laisser un avis de passage pour signaler qu'il reviendra à tel moment. Et ils poseront les questions avec 2 questionnaires. Un questionnaire sur les conditions de logement, un questionnaire pour chaque occupant du logement qui aborde des thèmes très classiques, éléments de confort pour le logement, statut d'occupation, et pour les personnes, sans être complètement exhaustif, bien évidemment l'état civil, l'âge, le lieu de naissance, le lieu de résidence 5 ans avant, le niveau de formation et des caractéristiques par rapport à l'emploi.
Et les agents passeront donc dans les foyers, dans les marinas également, et même pour les gens qui sont à la rue du 22 avril au 22 mai. Les données collectées seront utilisées pour réaliser des statistiques concernant la population calédonienne qui seront ensuite publiées dès juillet, puis détaillées ensuite par thème en 2026. Élise Desmazures est la directrice générale de l'ISEE.
Pour nous, c'est particulier parce qu'on a un recensement qui est peut-être effectivement un petit peu plus attendu que d'habitude, parce qu'il va nous permettre de savoir quels ont été les mouvements de population entre 2019 et aujourd'hui. Pour l'ISEE spécifiquement, il va servir à sortir énormément de statistiques. Donc on va en fait choisir après des angles d'analyse à partir des données qu'on va récolter. Donc ça peut être des analyses qui vont porter sur le mode de transport, sur des éléments de démographie. Et ça va nous servir aussi à avoir une nouvelle base d'échantillons pour toutes les enquêtes qu'on va faire auprès des ménages. Donc les premiers résultats, ils vont concerner uniquement le décompte de la population, ce qu'on appelle les populations de référence. Donc la population municipale qui va correspondre au nombre de populations par commune en fonction de leur lieu de résidence, et ce qu'on appelle la population totale. Et c'est sur cette base que pas mal de dotations, par exemple, vont être distribuées aux collectivités.
Et j'ajoute que l'ISEE a tout mis en œuvre pour rassurer les populations en dotant les agents recenseurs de signes distinctifs que je rappelle. Une chasuble orange avec inscription recensement, des mallettes bleues, sérigraphiées également, et un badge avec la photo de l'agent. Et en cas de doute, les foyers pourront appeler un numéro vert pour se faire confirmer l'identité de l'agent recenseur dédié à leur secteur. Il s'agit du 05 20 00, le 05 20 00.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avant une première pause dans ce journal. Avec notre question du jour, y a-t-il urgence, selon vous, à doter les professionnels de santé de moyens d'alerte en cas d'agression ? Si vous pensez qu'il y a urgence, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Et puis la réponse à la question d'hier, 75% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS ne pensent pas que la nomination de Mgr Soussitino Sione Poé comme archevêque de Nouméa puisse être un élément d'apaisement pour l'avenir de la Calédonie. Ils sont 25% à penser au contraire que ce peut être un élément d'apaisement. À 11h38, une pause donc, avant de voir dans un instant le reste de l'actualité en Calédonie, notamment cette audit sur les protection de marché qui est en train de se mettre en place.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Des conseils concernant les placements, l'épargne, les SCPI ou encore la retraite ? Caplif, votre expert calédonien en gestion de patrimoine, vous accompagne avec des solutions personnalisées. Caplif, depuis 35 ans à vos côtés. Et ce n'est que le début. Contactez Caplif au 28 30 00. RIAS 170 052, ORIAS 13 103.
Simplifiez-vous la vie avec le paiement en ligne. Pas besoin de créer de compte, rapide et pratique. Allez sur www.cde.nc, cliquez sur espace client et choisissez le paiement express pour régler votre facture d'eau. Calédonienne des eaux, l'eau qui nous unit.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La suite de l'actualité en Calédonie avec cet audit pour évaluer l'impact des protections de marché sur l'économie calédonienne. Il sera financé par l'État au travers de l'AFD et son objectif est de déterminer précisément les impacts des protections de marché sur l'économie calédonienne. Nous en avons parlé en compagnie de Christopher Gigès, le membre du gouvernement chargé de l'économie qui était notre invité ce matin à 7h30. Il replace cet audit dans le travail global qui est mené pour soutenir le pouvoir d'achat des Calédoniens et lutter contre la vie chère.
On souhaite soutenir notre industrie, mais pour soutenir l'industrie locale, il n'y a pas que les régulations de marché. Il y a le coût du travail, il y a le coût de l'énergie, il y a les différentes mesures en termes d'investissement qu'on peut mettre en place. Mais on sait qu'il y a un certain nombre d'abus en Nouvelle-Calédonie sur ces sujets et j'ai la conviction profonde qu'il faut que la Nouvelle-Calédonie s'ouvre davantage. C'est pas normal que le consommateur paye parfois 2 fois plus cher que sur un autre pays parce qu'il y a une protection ou bien parce qu'il n'a pas le droit de consommer un produit parce qu'il y a une mesure stop. Une mesure stop, c'est que l'industriel local est protégé sur le fait qu'il les autres importateurs n'ont pas le droit d'importer ce produit.
Cet audit doit permettre de savoir comment ces protections de marché ont fonctionné depuis des années et s'il faut soutenir éternellement une industrie. À l'heure actuelle, il est difficile d'estimer le nombre de protections de marché et l'audit permettra de déterminer combien de mesures ont été mises en place. Mais sur un sujet aussi sensible, le membre du gouvernement a tenu à un travail partagé sur le cahier des charges de l'audit.
On voit qu'il y a des passions, il y a des déclarations entre importateurs, producteurs locaux qui sont faits. Pour ma part, j'ai ma position également. Mais à un moment, il faut objectiver les choses. Et donc, avec cet audit et le cahier des charges, j'ai réuni l'ensemble des représentants des producteurs locaux, des importateurs, de la grande distribution, des consommateurs, des syndicats de salariés, pour qu'on arrive à partager au moins le cahier des charges et regarder ce qu'on audite. Et déjà, à partir de là, je sais que les conclusions de l'audit ne seront pas partagées par tout le monde in fine, mais au moins on sera mis d'accord sur ce qu'on a commandé.
En termes de calendrier, il faut compter 5 mois pour les conclusions de l'audit, 4 mois pour la synthèse et 1 mois pour les recommandations. Le résultat devrait être connu en fin d'année et il n'y aura pas de nouvelles protections de marché tant que l'audit ne sera pas rendu. Mais cela pourrait aboutir à une réforme complète de l'économie calédonienne.
Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas eu de stratégie industrielle sur la Nouvelle-Calédonie et on a protégé un peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui venaient avec leur dossier et très justement, ils voulaient investir, ils voulaient faire développer leur industrie. Mais la Nouvelle-Calédonie n'a pas su se doter d'un véritable schéma de l'industrie, de savoir qu'est-ce qu'on protégeait en Nouvelle-Calédonie, comment on le soutenait, par de l'investissement, par des charges sociales, par des régulations de marché. Et je le dis qu'ils ne doivent pas être ad vitam aeternam. Si ça doit être ad vitam aeternam, ça ne doit pas être produit tout simplement en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est une réforme de fond. Enfin, ce n'est pas un simple toilettage qui doit être fait. C'est vraiment qu'est-ce qui est bon pour le consommateur et qu'est-ce qui est bon pour l'économie calédonienne. C'est les deux questions que je me pose.
Et dans ce vaste chantier, l'objectif est aussi de faire la lumière sur les marges de la grande distribution pour savoir comment sont fixés les prix en Calédonie. Une interview de Christopher Gigès qui est à retrouver en audio et vidéo sur le site de Radio Rythme Bleu. Comment construire plus intelligemment et plus durablement? Question plus que jamais importante dans un contexte où la reconstruction est un enjeu majeur. La scorie, matériau que l'on connaît bien en Nouvelle-Calédonie puisqu'il est issu de la transformation du nickel. À la SLN, ce sont près d'1 million de tonnes qui sont produites chaque année. Un déchet qui peut être valorisé et utilisé comme matériau de construction, Charlotte Coulson.
Le procédé n'est pas nouveau. De nombreux bâtiments et ouvrages calédoniens sont faits à partir de scorie. Avec un peu de transformation, de criblage, la scorie devient en effet le sland, un matériau qui peut remplacer le sable dans la confection du béton. Mais la nouveauté, c'est que ce sland est désormais inscrit au référentiel de la construction de la Nouvelle-Calédonie, le RCNC, ce qui permet aux constructeurs d'assurer leurs ouvrages, comme l'explique Yves Véran, le directeur de Donambo Scori, une filière de la SLN qui porte le projet.
Le dernier frein à l'utilisation du sland dans le BTP, c'est l'aspect assurabilité. Aujourd'hui, quand on construit, il faut que les matériaux soient adossés à un référentiel de construction qui permette donc aux assureurs de vérifier que le produit effectivement a la qualité nécessaire. Aujourd'hui, le RCNC nous donne ce dernier maillon qui va permettre donc à maître d'ouvrage qui veut utiliser de la scorie dans son béton de l'utiliser et d'obtenir de la part de l'assureur une décennale permettant donc de se garantir contre un vice de forme qui pourra apparaître sur les 10 ans après la réalisation du bâtiment.
Et avec cette reconnaissance du sland par le RCNC, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie espère valoriser une filière de construction locale, durable, mais aussi développer le commerce dans la région et pourquoi pas à l'international. Petelo Sao, membre du gouvernement en charge de la construction et de l'innovation technologique.
L'impact, il est important puisqu'il permet de développer une économie circulaire autour de la scorie, puisqu'on produit déjà localement depuis plusieurs années ce matériau. Aujourd'hui, ça nous permet de valoriser le déchet qui était la scorie, qui est une ressource durable, puisqu'il permettra à terme aussi de réduire la quantité de sable naturel qui est exploité sur le territoire et donc de préserver nos ressources naturelles. Dans la région, en Australie, mais aussi dans les États du Pacifique, qui connaissent des enjeux environnementaux importants, notamment avec la montée des océans, le sland permettra d'assurer à ces territoires une soutenabilité et puis pourquoi pas s'exporter aussi jusqu'aux États-Unis où il y a déjà eu des pourparlers et des négociations qui sont en cours de façon à s'implanter durablement aux États-Unis.
Et sur le territoire, plusieurs bâtiments ont été construits à partir de scories et ont montré leur qualité. L'infirmerie de la SLN ou encore un poste électrique sont notamment des ouvrages ayant près de 10 ans d'existence et ne montrant pas de défauts structurels. Avec un peu plus de 25 millions de tonnes de scories à disposition, la vente de ce nouveau matériau pourrait assurer un commerce durable sur au moins 50 années.
L'actualité dans la région avec une course-poursuite pour le moins inhabituelle dans le territoire du nord de l'Australie. Généralement, ce sont les policiers qui poursuivent les délinquants routiers. Mais cette fois-ci, c'est un fourgon de la police qui a été pris en chasse par un pick-up volé. Les deux jeunes à bord ont été interpellés. Le récit de Jean-Pierre Zajac.
Habituellement, ce sont les policiers qui prennent en chasse les criminels. L'inverse s'est toutefois produit à Balumpa, une communauté aborigène située à environ 350 km au sud-ouest de la capitale du territoire du Nord, Darwin. Un fourgon de police y a, littéralement, été poursuivi par un pick-up Toyota qui l'a même tamponné à l'arrière durant cette course-poursuite d'un genre inédit. Immatriculé dans le New South Wales, le véhicule incriminé avait été volé en début de mois près d'une rampe de mise à l'eau de la Daly River, l'une des rivières de la région. Il a finalement été retrouvé à Wadai, une large communauté indigène située à 400 km à l'ouest de Darwin. La police y a également procédé à l'arrestation de ses deux occupants. Âgés de 19 et 21 ans, les deux malfrats vont devoir répondre de leurs actions devant la justice. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 11h46, on se retrouve dans un petit instant pour évoquer l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Pendant les vacances, Bureau Vallée pense à vous. Les rayons Beaux-Arts, Loisirs créatifs et librairies sont à moins 20%. Rendez-vous dans votre magasin Bureau Vallée Magenta, ouvert en continu de 8h à 18h du lundi au samedi.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Offre valable du 5 au 19 avril 2025.
Besoin d'une clôture? Nous l'avons. La Maison de la Clôture est spécialisée dans la vente et la pose de tout type de clôture. Particuliers et professionnels, nous avons du choix et du stock. Info Facebook, la Maison de la Clôture.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité en métropole et dans le monde, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
Emmanuel Macron persiste malgré les vives réactions des dirigeants israéliens. Il veut toujours lancer ce qu'il appelle une série de reconnaissances d'un État palestinien, sujet sur lequel il attend une décision lors de la conférence des Nations Unies en juin prochain qui sera coprésidée par la France et l'Arabie Saoudite. Sujet sur lequel il a donné aussi des précisions alors qu'il visitait une exposition sur Gaza à l'Institut du Monde Arabe. Youen Madec pour Europe 1.
Emmanuel Macron l'a répété tout au long de la journée. Il souhaite arriver à une solution politique à deux États et envisage pour cela que la France puisse reconnaître l'État palestinien en juin donc, mais pas sans condition. Comme il l'a affirmé ce soir, son but est, je cite, de déclencher une série de reconnaissances d'un État palestinien, mais aussi la reconnaissance d'Israël par des États qui aujourd'hui ne le font pas. Plus tôt dans la journée, lors d'un échange téléphonique, le président français avait rappelé à Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne, la nécessité d'écarter le Hamas et de définir une gouvernance crédible à Gaza. Surtout, les deux hommes ont souligné la nécessité de garantir la présence des Palestiniens sur leur terre, en opposition frontale au plan américain de déplacement forcé des Gazaouis. À la place, les deux dirigeants soutiennent le plan de la Ligue arabe de reconstruction de la bande de Gaza et appellent au cessez-le-feu et à un accès immédiat de l'aide humanitaire.
Et notez que l'Égypte a annoncé avoir reçu une proposition d'Israël pour un cessez-le-feu provisoire dans la bande de Gaza, une trêve qui devrait permettre de négocier un arrêt définitif des combats. La France, dont les relations avec Alger restent compliquées, alors qu'on croyait à une désescalade depuis la visite sur place il y a quelques jours du ministre français des Affaires étrangères, le pouvoir algérien vient de sommer 12 employés de l'ambassade de France de quitter le pays sous 48 heures. Il s'agit principalement de policiers et de gendarmes. Le Quai d'Orsay a annoncé d'éventuelles mesures de représailles. Il faut trouver 40 milliards d'euros d'économies pour le prochain budget 2026 de la France. C'est l'annonce faite hier par le ministre de l'Économie qui entend toujours ramener le déficit à 3% du PIB d'ici 2029. Des économies très importantes, mais pour autant pas de hausse d'impôts, a précisé Éric Lombard. Alors comment faire, Baptiste Morin?
Le gouvernement veut par exemple cibler des dispositifs légaux comme l'optimisation fiscale. L'idée, c'est de transformer la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus en taxe sur les différents outils tout à fait légaux qui permettent aujourd'hui à certains foyers de réduire leurs impôts. Le gouvernement est aussi prêt à trahir ses propres principes. Un nouveau tour de vis sur l'assurance chômage serait prévu alors que les prévisionnistes tablent tous sur une hausse du chômage. Cela reviendrait donc à trahir le principe de contracyclicité inscrit dans la loi et selon lequel, si le chômage baisse, la prise en charge est allégée, mais si le chômage augmente, alors elle est renforcée. Enfin, l'exécutif semble aussi prêt à prendre le risque de favoriser le travail au noir en touchant au crédit d'impôt emploi à domicile. Quelques 5 millions de foyers en bénéficient pour la garde d'enfants ou le ménage, par exemple. Le dispositif coûte 6 milliards d'euros à l'État, c'est vrai, mais il favorise le travail déclaré avec des milliards d'euros de cotisations à la clé.
Le gouvernement est donc très attendu sur le sujet. François Bayrou réunit la nuit prochaine pour nous une conférence des finances publiques. L'Association des maires de France a décidé de la boycotter, estimant que c'était une séquence de communication. Les oppositions de leur côté restent très circonspectes. Et si les choses n'allaient pas dans le bon sens, le Rassemblement national brandit une nouvelle fois la menace d'une motion de censure. Écoutez le vice-président du Rassemblement national, Sébastien Chenu.
Politiquement, bien sûr que le gouvernement s'expose en construisant un budget qui demanderait aux Français de se serrer la ceinture et uniquement aux Français de se serrer la ceinture s'expose à une censure de notre part. On n'a pas peur de ça, on n'a pas froid aux yeux.
La France insoumise aussi parle d'une éventuelle motion de censure et essaye de rallier les socialistes à sa cause. C'est une tendance observée depuis plusieurs années qui s'accélère. Dans la nuit de Pâques, le nombre d'adultes qui demandent le baptême est en constante augmentation. On les appelle les catéchumènes et ils sont plus de 10 000 à avoir choisi ce chemin cette année selon la Conférence des évêques de France. C'est 45% de plus en un an. Ce père de famille et cette jeune femme habitante à Lyon ont fait ce choix qui les a, dit-il, transformés.
Ça n'a pas été comme une foudre qui vous tombe dessus. Il y a vraiment beaucoup de signes qui se sont mis au fur et à mesure, notamment des discussions avec mon épouse. Cette foi catholique, en fait, me dit que j'ai trouvé le bon chemin. Je suis beaucoup plus apaisé maintenant.
C'est un changement radical pour moi. C'est un changement de vie. C'est comme une renaissance par rapport à qui j'étais avant et qui je suis aujourd'hui. Et je remarque mon évolution et les gens autour de moi me le disent aussi. J'ai beaucoup plus la joie de vivre, j'ai beaucoup plus le sourire.
Et cette explosion du nombre de catéchumènes s'explique par un besoin de sacrer, explique de son côté Monseigneur de Germay, l'archevêque de Lyon.
Nous sommes dans une société où les jeunes sont en quête de sens. Le progrès technologique n'a pas tenu ses promesses. La surconsommation a aussi déçu. Les jeunes se rendent bien compte que tout ça, au fond, n'arrive pas à combler leur soif de bonheur. Et donc, ils se tournent vers la transcendance, la dimension spirituelle.
À Nouméa, cette année, 23 catéchumènes seront baptisés la nuit de Pâques. 27 autres personnes qu'on appelle recommençants et qui ont déjà reçu les sacrements officialiseront leur retour dans l'Église après avoir laissé de côté la foi chrétienne pendant plusieurs années. L'actualité en métropole, c'est aussi l'inquiétude toujours après la disparition d'Agathe dans la Vienne au sud de Poitiers. Cette jeune femme de 28 ans est partie il y a 4 jours pour un jogging dans les bois autour de la maison de ses parents et n'a depuis plus donné signe de vie. Le parquet a ouvert une information judiciaire contre X pour enlèvement et séquestration. Stéphane Place pour Europe 1.
5 jours après cette disparition inquiétante, c'est une nouvelle étape logique, l'ouverture d'une information judiciaire des chefs d'enlèvement et séquestration contre X. Cela signifie que, désormais, c'est un juge d'instruction qui va diriger l'enquête et c'est un cadre qui permet aussi de renforcer les moyens à la disposition des gendarmes pour poursuivre leurs investigations. Sur un plan technique notamment, pour les analyses ADN, les expertises numériques, les auditions, les perquisitions, puisque le mystère demeure malgré le spectaculaire dispositif de recherche déployé dans ce secteur boisé de Vivonne, où Agathe avait l'habitude d'aller courir. On n'a malheureusement pas retrouvé cette jeune femme. Aujourd'hui encore, une centaine de militaires a été mobilisée dans ce coin de campagne de la Vienne, aidée par des équipes cynophiles. Et plusieurs pistes ont d'ailleurs été explorées à partir des marquages des chiens. La gendarmerie exploite évidemment tous les signalements, tous les témoignages, autour de 90 reçus après l'appel lancé vendredi. C'est un travail de fourmi, puisqu'il faut réaliser de très nombreuses vérifications, des recoupements, dans l'espoir de détecter un élément clé.
11h53, la dernière pause de ce journal avant de voir l'actualité sportive dans un instant.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Urgence, pouvoir d'achat.
Maman, on peut jouer au jeu de Pâques?
Quel jeu de Pâques, chérie?
Le jeu de Pâques à Hyper Upaïta.
Jusqu'au 21 avril, venez jouer dans votre magasin Hyper Upaïta pour gagner 10 bons d'achat d'une valeur de 5000 francs et 2 gros œufs en chocolat d'une valeur de 9600 francs.
Profitez aussi des promos de folie avec des œufs en chocolat à petit prix.
En plus, Hyper Upaïta sera exceptionnellement ouvert lundi 21 avril de 8h à 13h.
U, commerçant autrement.
Prêt pour un lavage parfait? Pour un linge impeccable, même à l'eau froide, Gamma prend soin de vos blancs et couleurs, tout en leur offrant une fraîcheur intense qui dure longtemps. Gamma, le choix malin pour votre lessive. Découvrez nos nouveaux parfums de lessive Gamma dans votre magasin le plus proche. Gamma, le choix malin.
Tout le sport en 3 lettres. RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
On va parler football, puisque c'est demain matin le retour de la Ligue des Champions et vainqueur 3-1 à l'aller des quarts de finale au Parc des Princes. Le PSG, Lionel Sabot, dispose d'une marge confortable sur Aston Villa avant le match retour à Birmingham en Angleterre. Le coup d'envoi sera donné demain à 6h.
Oui, le PSG qui a un pied en demi-finale de la compétition, mais qui devra tout de même se méfier de cette équipe d'Aston Villa, très revancharde cette saison. L'équipe qui est menée par Marcus Rashford a démontré qu'elle était intraitable à domicile. Ils n'ont perdu que deux fois cette saison, face à Arsenal en août et face à Crystal Palace, c'était au mois d'octobre, en Coupe de la Ligue. Et même s'il leur faudra remontrer au moins deux buts pour espérer éliminer le Paris Saint-Germain, l'entraîneur Unai Emery et ses joueurs espèrent créer l'exploit de son côté. L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, refuse le statut de favori. Rien n'est gagné, tout reste à faire pour le coach parisien.
Es como cuando dais favoritos a algunos equipos antes de jugar. Está llena la carretera de eliminados de equipos favoritos.
Le chemin de la Ligue des Champions est pavé d'équipes favorites qui ont été éliminées en route. Donc bien sûr que on a joué, on a été supérieur au match aller et la victoire a été méritée. Mais cette histoire-là, elle est derrière nous. Maintenant, c'est une deuxième histoire qui commence et on va voir qui est meilleur, qui va gagner. Alors bien sûr qu'on a cet avantage, mais cela ne correspond en rien à notre philosophie de penser avec des certitudes. Parce qu'on a toujours cette idée de ne pas calculer. Et si Aston Villa gagne, si Aston Villa marque, reste encore à voir combien de buts ils montreront. Mais nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est démontrer pendant ce match que nous avons le niveau requis pour aller en demi-finale.
Et si la composition officielle du PSG n'a pas encore été communiquée, il devrait y avoir peu de changements. Le PSG qui pourra compter tout de même sur le retour de suspension de Marquinhos, qui pourrait démarrer avec Bradley Barcola plutôt que Désiré Doué sur l'aile droite de l'attaque. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné demain matin à 6h dans l'autre quart de finale au menu à demain. Le FC Barcelone se déplacera sur la pelouse du Borussia Dortmund. Barça qui s'était imposé 4-0 au match aller. Ce sera également demain à 6h et puis jeudi les autres quarts de finale retour. Real Madrid, Arsenal et Inter Milan, Bayern Munich.
Et puis on va parler de basket US, c'est-à-dire de NBA. La saison régulière vient de se terminer après 5 mois et demi de compétition. Place désormais aux play-in qui débuteront demain matin avant les play-offs.
Ah oui, après 82 matchs pour toutes les franchises, les play-in détermineront les deux derniers qualifiés pour les play-offs qui débuteront le 20 avril. À l'Est, les Orlando Magic et les Atlanta Hawks s'affronteront demain à 10h30. Le vainqueur validera son billet pour la post-saison. Et puis à l'Ouest, nous suivrons un premier match avec un choc très attendu entre les Golden State Warriors et les Memphis Grizzlies. Ce sera demain à 13h. Concernant les équipes d'ores et déjà qualifiées pour les play-offs, on retrouvera pour la conférence Est Cleveland, Boston, New York, Détroit, Indiana, Milwaukee. Et puis pour la conférence Ouest, Oklahoma City, Houston, les Clippers et les Lakers de Los Angeles, Denver et les Minnesota. 4 places pour les playoffs, 2 dans chaque conférence, sont donc à gagner durant ces play-in.
11h58, c'est la fin de ce journal play-off pour l'information, mais vous restez bien avec nous dans un instant, c'est le magazine Citoyen. Cette semaine, Nicolas Legrand et ses invités vont s'intéresser au fonctionnement des CFA, des centres de formation des apprentis.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.